Chapitre 3. Les deux premiers chapitres ont placé devant nous les gloires de la personne de Christ. Ils nous préparent ainsi à saisir la bénédiction que nous apporte l'office de notre grand souverain sacrificateur. Dans cette nouvelle division de l'épître, nous apprenons d'abord dans quelle sphère le service sacerdotal de Christ s'exerce, la maison de Dieu, versets 1 à 6. Deuxièmement, nous voyons les circonstances du désert qui rendent ce service sacerdotal nécessaire, versets 7 à 19. Troisièmement, il nous est parlé du repos dans lequel le désert conduit, chapitre 4, versets 1 à 11. Enfin, nous découvrons les moyens pleins de grâce auxquels Dieu a pourvu pour nous garder dans le désert, chapitre 4, versets 12 à 16. Versets 1 à 6. La sphère du service sacerdotal de Christ. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, qui est fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites. Mais Christ comme fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Fin de citation. La dernière partie du chapitre 2 a montré le chemin plein de grâce que le Seigneur a suivi pour pouvoir exercer sa sympathie de souverain sacrificateur envers les siens éprouvés par la souffrance. Dans les premiers versets de ce chapitre, la maison de Dieu est introduite pour montrer la sphère dans laquelle sa sacrificature s'exerce. Les croyants juifs sont appelés frères saints et participants à l'appel céleste. En tant que juifs, ils avaient été habitués à être appelés frères, et ils étaient participants à l'appel terrestre. Comme chrétiens, ils sont des frères saints, et avec tous les autres chrétiens, ils sont les objets de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Les gloires de Christ ayant été placées devant nous dans les chapitres 1 et 2, nous sommes maintenant exhortés à considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Le titre d'apôtre est particulièrement lié à la vérité du Fils de Dieu présenté dans le premier chapitre, dans lequel nous voyons le Fils venir sur la terre et parler aux hommes de la part de Dieu. Le titre de souverain sacrificateur est rattaché au deuxième chapitre, dans lequel le Fils de l'homme est présenté comme allant de la terre au ciel pour servir devant Dieu en faveur des hommes. Le vrai but de tout ministère est, non pas simplement d'occuper les auditeurs de la vérité présentée, mais de les amener à contempler Jésus. Il est à remarquer qu'ici, c'est Jésus, non pas comme ailleurs le Christ Jésus. Tout juif était prêt à recevoir le Messie. Mais seul le chrétien reconnaissait que le Christ était venu dans la personne de Jésus. L'Esprit de Dieu fait allusion à Moïse et au tabernacle dans le désert pour montrer que Moïse est surpassé par Christ et que le tabernacle n'était qu'une image des choses qui seraient révélées plus tard. Moïse n'a jamais été sacrificateur. Son service avait davantage un caractère apostolique. Il va vers le peuple de la part de Dieu. Aaron, le sacrificateur, va vers Dieu de la part du peuple. Moïse, sous la direction de Dieu, bâtit le tabernacle dans le désert. Jésus, le vrai apôtre, est celui qui a bâti tout l'univers dont le tabernacle était une figure. De plus, si Dieu habite les cieux des cieux, il est également vrai qu'il habite au milieu des siens, qui, aujourd'hui, forment sa maison. La maison, dans sa forme spirituelle actuelle, est une des choses dont le tabernacle matériel était une image. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, dans le désert, comme serviteurs. Christ l'est sur la maison de Dieu, composée des enfants de Dieu, comme fils. Ainsi, l'introduction des enfants de Dieu comme constituant la maison de Dieu montre la sphère dans laquelle Christ exerce sa sacrificature. Et c'est pourquoi, un peu plus loin, nous lisons que nous avons un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Chapitre 10, verset 21. Versets 7 à 19. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté en m'éprouvant et ont vu mes œuvres durant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération, et j'ai dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur, et ils n'ont point connu mes voies. Ainsi je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité, en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance, selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Car qui sont ceux qui, l'ayant entendu, l'héritèrent? Mais est-ce que ce ne furent pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte par Moïse? Et contre lesquels fut-il indigné durant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert? Et auxquels jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ont désobéi? Et nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité. Fin de citation. L'allusion à Moïse et au tabernacle conduit tout naturellement à la pensée de la traversée du désert par le peuple de Dieu. Si le tabernacle est un type du peuple de Dieu, la traversée du désert par Israël est un type du passage des enfants de Dieu dans ce présent siècle mauvais avec tous ses dangers. Cette traversée du désert devient l'occasion qui rend nécessaire cette grâce sacerdotale. En outre, dans le désert, la réalité de notre confession est mise à l'épreuve par les dangers que nous avons à rencontrer. Ces Hébreux avaient fait publiquement profession de christianisme. Avec la profession, il y a toujours la possibilité d'un défaut de réalité. D'où l'introduction des « si ». Ainsi, l'auteur dit que nous sommes la maison de Dieu si, du moins, nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Ce n'est pas une mise en garde contre une trop grande confiance en Christ et dans la sécurité éternelle qu'il assure aux croyants, car il a été très justement dit « Il n'y a aucun si, ni quant à l'œuvre de Christ, ni quant à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Là, tout est grâce inconditionnelle pour la foi. Pensée de William Kelly. L'avertissement suppose que ceux auxquels il est adressé ont cette assurance, et ils sont exhortés à ne pas l'abandonner. Que le vrai croyant tiendra ferme, ou plutôt que Dieu, par la grâce sacerdotale de Christ, le maintiendra ferme jusqu'à la fin, malgré de nombreux manquements, cela est certain. La réalité chez le croyant est prouvée par le fait qu'il endure l'épreuve jusqu'au bout. Le désert, qui met à l'épreuve le vrai croyant, met à nu le défaut de réalité chez le simple professant. Pour nous encourager à tenir ferme, une citation du psaume 95 nous rappelle les avertissements donnés par l'Esprit de Dieu à Israël en relation avec la venue de Christ en gloire et en puissance dans le monde pour introduire le peuple dans le repos. Aujourd'hui est un jour de grâce et de salut, dans la perspective de partager la gloire de Christ dans le monde à venir. Dans un tel jour de bénédiction, les Hébreux sont exhortés à ne pas agir comme leur père dans le désert. Israël avait fait profession de quitter l'Égypte et de suivre l'Éternel au travers d'un désert où les dangers abondaient et dans lequel seule la confiance en Dieu pouvait les soutenir jusqu'au but. Pendant 40 ans, Ils ont vu les œuvres de puissance et de miséricorde de Dieu, répondant à leurs besoins et les gardant de tout danger. Néanmoins, malgré tous les signes de sa présence, ils tentèrent Dieu et le mirent à l'épreuve en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Ils manifestèrent ainsi la dureté de leur cœur insensible à la bonté de Dieu. Ne recherchant que leur propre convoitise et ignorant les voies de Dieu, ils montrèrent clairement que, quelle que soit la profession qu'ils avaient faite, ils n'avaient pas de confiance réelle en Dieu. Au sujet de telles personnes, Dieu dit qu'elles n'entreront pas dans son repos. Les avertissements du psaume 95 sont appliqués aux chrétiens professants. Nous devons prendre garde, de peur qu'un méchant cœur d'incrédulité ne nous fasse abandonner le Dieu vivant pour placer à nouveau notre confiance dans des formes mortes. Nous montrerions par là qu'en dépit de la profession qui a pu être faite, l'âme n'a pas confiance en Christ, ni dans la grâce qui, par son œuvre accomplie, assure aux croyants le salut et le pardon. Toutefois, ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas tant l'adjonction de formes judaïques à la vie chrétienne, quelque mauvais que cela soit, que l'abandon total de Christ et le retour au judaïsme, ce qui est l'apostasie. De plus, nous ne sommes pas exhortés à prendre garde seulement à nous-mêmes, mais l'un à l'autre, chaque jour, aussi longtemps que c'est encore un jour de grâce et de salut, de peur que quelqu'un ne s'endurcisse par la séduction d'un chemin de propre volonté. Il ne s'agit pas ici de commettre des péchés, aussi solennels que cela soit, car un péché conduit à un autre. C'est du principe du péché que l'auteur parle. C'est l'iniquité. Nous réalisons peu combien nous endurcissons nos cœurs en faisant notre propre volonté. Aussi, nous avons à prendre garde à nous-mêmes et à veiller l'un à l'autre. L'amour ne devrait pas être indifférent envers un frère en train de s'écarter en faisant sa propre volonté. Les croyants ne sont pas seulement la maison de Dieu, ils sont aussi les compagnons du Christ. Ici, de nouveau, ce n'est pas le corps de Christ et les membres de son corps, comme unis à la tête par le Saint-Esprit, où il ne peut rien y avoir qui ne soit réel. La profession est toujours en vue, et il est supposé qu'elle corresponde à la réalité. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Aussi est-il de nouveau précisé, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Non pas une assurance fondée sur quoi que ce soit en nous-mêmes, ce qui ne serait que de la propre justice. L'assurance sur laquelle il est insisté se fonde sur le Seigneur Jésus, sur son sacrifice propitiatoire et sur l'efficacité acceptée de son œuvre. Nous ne sommes pas blâmés d'avoir une telle assurance, au contraire, nous sommes exhortés à la retenir ferme. Puis, se référant de nouveau à Israël dans le désert, l'auteur pose trois questions pénétrantes pour manifester la dureté, le péché et l'incrédulité d'Israël. D'abord, qui sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu relative à un repos à venir, l'irritèrent? S'agissait-il seulement de quelques-uns d'entre le peuple? Hélas, c'était la grande masse, tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Deuxièmement, contre qui Dieu fut-il indigné durant 40 ans? Ce fut contre ceux qui, en raison de la dureté de leur cœur, avaient choisi leur propre péché. Troisièmement, à qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Ce fut à ceux qui n'avaient pas cru. Nous apprenons ainsi que la racine du péché, c'était l'incrédulité. L'incrédulité les laissa exposer à leurs péchés, et les péchés endurcirent leur cœur.